Bon, je voudrais commencer peut-être par me réjouir de l'activité de notre président de la République actuelle, ce qui vous surprend certainement, mais je suis assez sincère en disant cela, car si j'en juge d'après ma propre expérience, depuis 25 ans, je n'ai jamais été autant sollicité qu'en ce moment. C'est donc sans doute qu'il doit se passer quelque chose. Alors je me dis à la fois que les terrains sur lesquels je me suis mis sont aussi les siens, et qu'à partir de là, la bataille peut être claire. Et je crois qu'à partir de cette expérience personnelle, on peut peut-être un peu généraliser, et que cette sorte de traumatisme que la France connaît en ce moment, qui désoriente tout le monde, préfigure peut-être une autre manière de s'engager dans la politique, une autre manière de reprendre l'initiative. Personnellement, j'en suis assez convaincu. Mais pour le faire, peut-être ne faut-il pas rester au simple niveau de la contestation de ce qu'il fait. Ça, on sait faire, d'une certaine manière. Mais je crois qu'il faut plutôt préparer l'avènement de temps nouveaux, à partir d'une tradition qui n'est pas la sienne, mais qui est la nôtre, qui est une tradition républicaine, héritée d'une histoire monarchique spécifique, et qui, au fil des siècles, a forgé des valeurs dont nous sommes les héritiers, et dont nous avons la responsabilité de les transmettre. Et en premier lieu, bien entendu, de les traduire par une action consciente et résolue dans la réalité actuelle. Ceci pour dire qu'il faut prendre du recul, me semble-t-il, par rapport à ce qui se passe, et ne pas se laisser fasciner par les démêlés privés du couple présidentiel. Ça, c'est l'autre pôle sur lequel il ne faut pas se situer. Moi, je partirai, si vous le permettez, de Philippe le Bel, après Sarkozy. Philippe le Bel, à la fin du XIIIe siècle, a estimé qu'on ne pouvait pas traiter des affaires du royaume à travers les parlements de droit commun. Parce que, selon lui, l'intérêt du royaume, l'intérêt de la France, c'était quelque chose de plus noble, qu'on appelait le bien commun, et qui devait être traité par des tribunaux différents. Et c'est pourquoi il a créé le Conseil du roi, où il a mis des gens qui lui étaient proches et qui étaient chargés de traiter des affaires du royaume et en même temps de lui rédiger les textes qui régissaient le fonctionnement du royaume. Je crois qu'il faut y voir là le repérage d'un intérêt général qui, à mon avis, doit surplomber toute notre réflexion. Même la monarchie absolue ensuite, en France plus qu'ailleurs, a sécularisé le droit divin et d'une certaine façon a laïcisé le pouvoir d'État. Louis XIV, vous le savez, disait « l'État c'est moi » et quand il est mort, il a dit « je meurs mais il reste l'État ». C'était contradictoire mais finalement parfaitement compréhensible. Et bien entendu, avec la Révolution française, la nation prend corps comme souverain. Et c'est elle qui est détentrice de l'intérêt général. Tout au fil de notre histoire, l'intérêt général s'est incarné dans des grandes figures, Richelieu, les grandes figures de la Révolution française, Napoléon même, avec les codes qu'il a faits, à travers le mouvement socialiste qui s'est développé au XIXe siècle, et jusqu'à nos jours, disons, De Gaulle ou Mitterrand. Donc nous avons cet héritage de l'intérêt général, qui n'est pas, comme on le pense dans les pays anglo-saxons, la somme des intérêts particuliers, et qui détermine très largement notre manière d'être un peuple politique. Et c'est pourquoi, très rapidement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, s'est développée ce qu'on appelait une école du service public français, qui a donné naissance à cette idéologie du service public qui existe dans notre pays, qui a été mise en forme juridiquement. Et on a dit qu'il y avait service public en France lorsque il y avait une mission d'intérêt général définie par le pouvoir politique, pas par les économistes, pas par les juristes, par le pouvoir politique, dans une société présumée démocratique, bien sûr. Qu'il y avait une personne morale de droit public, excusez-moi d'utiliser des mots un petit peu un petit peu savant, mais c'est comme ça que le droit se disait, pour mettre en œuvre ces missions d'intérêt général, ce sont les entreprises publiques ou les administrations, et puis, en harmonie avec Philippe le Bel, qu'il devait y avoir un droit administratif à côté du droit des gens, à côté des droits privés, et un juge administratif, ce qui est pourquoi en France il y a deux juridictions, une juridiction administrative avec au sommet le Conseil d'État et une juridiction privée avec au sommet la Cour de cassation. Autrement dit, en France, plus que dans n'importe quel autre pays, on a su très tôt faire la distinction entre le public et le privé. Et d'où le service public tel que nous le connaissons. Alors, on a aussi décidé que ça n'était pas par les prix que le service public devait être rémunéré, mais par l'impôt. Mais qu'à l'inverse, le service public devait être doté de prérogatives de service public, par exemple les déclarations d'utilité publique. Et qu'on ne pouvait appeler la responsabilité du service public qu'en cas de faute d'une certaine importance. Là aussi, peut-être en filiation avec cette phrase qui était dite souvent sous la monarchie, le roi ne peut mal faire. Ben, en France, on a traduit ça avec ce que ça peut comporter de négatif. L'État ne peut mal faire. Les services publics ne peuvent mal faire parce qu'ils sont les services publics, parce qu'ils sont le moyen de l'intérêt général. Alors c'était une notion simple qui est devenue progressivement complexe à la mesure même du succès du service public. Parce que comme il a eu du succès en France, il s'est élargi. En s'élargissant aux activités économiques, il est devenu moins clair au jeu des gens. Le public s'est mis à faire du privé à travers la régie. Et le privé s'est mis à faire du public à travers la concession. Un mouvement associatif autour des entités publiques s'est développé, ce qui fait que les frontières sont devenues moins claires. Et puis surtout, la conséquence, c'est que, alors que le service public était jusque-là régi par la loi, de plus en plus le contrat a gagné du terrain et a disputé le terrain à la loi et au décret, c'est-à-dire l'expression de la volonté générale. Et la chose est devenue encore plus compliquée dans le cadre actuel de la construction européenne, où les autres pays, les 27 autres pays, n'ont pas cette culture du service public, où ils pensent en majorité que la somme des intérêts particuliers, c'est l'équivalent de l'intérêt général, et où la notion de public-privé n'est pas aussi claire. C'est pourquoi on ne retient pas dans les traités européens la notion de service public, mais seulement celle de service d'intérêt économique général. Et là, je renvoie au débat que nous avons eu à propos du traité sur la Constitution européenne. Et je pense que si ce traité a échoué en France, c'est pour une grande partie parce qu'était en cause dans ce traité notre conception du service public. Et c'est une bonne chose, de mon point de vue, à cet égard. Alors, bien entendu, la question qui se pose, c'est que faut-il pour que le service public prospère, pour que l'intérêt général soit présent dans les fonctions essentielles de notre nation? Eh bien, il lui faut, à mon avis, outre des missions d'intérêt général claires, des administrations, des entreprises qui y mettent en œuvre, et puis un droit administratif qui fonctionne, il faut, me semble-t-il, aussi un secteur public, c'est-à-dire une propriété publique importante. Et c'est pour moi un drame d'avoir pu lire dans un journal un jour que le Premier ministre d'un gouvernement de gauche avait privatisé plus que ses prédécesseurs de droite. C'est à mes yeux un reniement sur le fond. Et donc, on doit en tirer la leçon. Au cœur, si le service public, c'est le vecteur de l'intérêt général, la fonction publique, c'est le cœur du service public. La fonction publique en France, c'est quelque chose de très important. Hein. Je vais donner quelques chiffres en déjeunant à midi. En France, il y a 5,2 millions de fonctionnaires. 700 000 en Allemagne, 600 000 en Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'ils aient moins d'agents publics que nous, à cette proportion. Simplement, les autres, ils sont sous droit privé, sont gérés dans le cadre de conventions collectives. Nous considérons, au contraire, en France, que tous ceux qui participent à la mise en œuvre du service public doivent être reconnus comme fonctionnaires, c'est-à-dire répondre à une certaine organisation spécifique qui fait qu'on ne sert pas l'intérêt général comme on sert les intérêts privés. On ne sert pas l'État, un département, une région, une commune, comme on sert IBM ou Arcelor. Ce n'est pas la même chose. On en arrive donc à la fonction publique. je disais une tradition. Une tradition, mais une tradition complexe. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les syndicats étaient contre le statut général des fonctionnaires. Ils appelaient ça un statut carcan. Pourquoi ? Parce que c'était l'administration qui essayait, à travers une construction statutaire, de traduire ce qu'on appelle le principe hiérarchique, c'est-à-dire de rendre plus obéissants les fonctionnaires parce qu'ils seraient mieux encadrés. Les fonctionnaires et l'organisation étaient contre. Et puis il y a eu le programme du CNR, et puis il y a eu la libération, et puis la chose s'est inversée à la faveur de la construction d'un statut des fonctionnaires d'un type nouveau, celui de la loi du 19 octobre 1946, qui a donné le statut de fonctionnaire avec une garantie d'emploi et avec des droits et des obligations qui sont ceux de tous les citoyens à 1 million de fonctionnaires. Quand je suis arrivé au ministère de la fonction publique en 1981, il y avait 2 millions de fonctionnaires de l'État. La construction que nous avons faite a attrait dans la fonction publique les fonctionnaires des collectivités territoriales et les fonctionnaires des établissements publics hospitaliers et de recherche. C'est pourquoi aujourd'hui il y en a 5,2 millions. Or ce chiffre est important. Pourquoi ? Parce que dans le contexte d'ultralibéralisme d'aujourd'hui, il n'est pas admissible pour ceux qui nous gouvernent et pour les puissances économiques et financières dominantes qu'un quart de la population active soit protégée par des statuts. Il faut qu'il y ait de la flexibilité, comme on dit. Il faut que la concurrence entre les personnes puisse se développer. Ce que ne permet pas, effectivement, le statut de la fonction publique, qui ne vise qu'à la mise en œuvre de travailleurs collectifs pour le service du bien commun. C'est une logique complètement différente. Et lorsque nous avons eu la charge donc de traduire en statut la situation de ces 5,2 millions de personnes, on s'est bien rendu compte que on répétait ce qui s'était passé pour le service public, c'est-à-dire en élargissant la fonction publique, nous englobions des gens de plus en plus différents, et que donc c'était difficile de les mettre dans le même moule en quelque sorte, et qu'il fallait respecter, parce que c'était une richesse, la diversité de tous ces gens-là. Des agents, des collectivités locales, des établissements de recherche, des établissements hospitaliers. D'où cette construction dont nous avons affirmé l'unité à travers des affirmations de principe, que j'ai eu le souci d'ancrer dans notre histoire, comme je l'ai fait au début de cet exposé. Trois principes. Premier principe, principe d'égalité, qui a sa source dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit: la loi est l'expression de la volonté générale. Les citoyens et les citoyennes doivent concourir également à l'élaboration de la loi. Ils ont un égal accès aux emplois publics, la différence entre eux ne résultant que leur différence de vertu et de talent. C'est comme ça que parlaient les révolutionnaires de l'époque, et ils parlaient bien. Et nous en avons déduit que c'était par la voie du concours qu'on entrait dans la fonction publique. Point qui est contesté, vous le savez, aujourd'hui. Deuxième principe, le principe d'indépendance. Nous pensons que le fonctionnaire doit être à l'abri de l'arbitraire administratif et des pressions du pouvoir politique ou des pressions économiques. C'est pourquoi il faut qu'il soit propriétaire de son grade si son emploi est à la disposition de l'administration. La source n'est pas une source républicaine. C'est la loi sur les officiers de 1834 qui dit que l'officier est propriétaire de son grade si son emploi est à la disposition du roi, aujourd'hui de la nation. Vous voyez, je ne suis pas chiche sur mes références. Je prends partout, ça me semble bon. Troisième principe, le principe de responsabilité. Là encore, article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'agent public doit rendre compte à la nation de l'exercice de sa fonction. Nous en avons déduit que le fonctionnaire avait une responsabilité plus grande que celle des autres citoyens, qui était de servir la nation. Et que pour cela, contrairement à ce que d'autres pensent, il fallait qu'il ait la plénitude des droits du citoyen. Et là se sont heurtées deux conceptions dont nous avons débattu à l'époque, c'est-à-dire en 83, celle du fonctionnaire sujet, exprimée par une phrase de Michel Debré dans un livre de 1954 qui disait: le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait. Alors nous avons pris le contre-pied en considérant que le fonctionnaire devait avoir la plénitude des droits. C'est pourquoi, alors qu'il avait le droit de grève, nous l'avons inscrit dans le statut. Alors qu'il avait la liberté d'opinion, nous l'avons inscrit dans le statut. Et il en était ainsi pour d'autres dispositions. Voilà ce que nous avons estimé être le moyen d'affirmer l'unité. La diversité maintenant, eh bien c'est ce qu'on a appelé la fonction publique à trois versants. C'est-à-dire un ensemble de quatre lois, appelées titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, qui montrent bien qu'il s'agit d'un même ensemble. Le titre 1 concernant les droits et obligations des fonctionnaires, le titre 2 concernant les fonctionnaires de l'État, 3 fonctionnaires territoriaux, 4 établissements publics hospitaliers. Aujourd'hui, alors ce statut a 25 ans aujourd'hui. Entre le statut de 46, celui de 59 et celui de 83-84, c'est celui qui vient d'avoir la plus grande longévité. Je ne suis pas sûr que ça dure encore longtemps. Mais enfin, prenons-en acte avant que le pire soit fait, que le malheur soit consommé. Aujourd'hui, en effet, le président de la République française, qui n'a pas la culture que je viens d'évoquer depuis le début de mon intervention, c'est à mon avis le premier président de la République française qui est dépourvu de cette culture. C'est une force en ce sens qu'il se croit capable de faire n'importe quoi, parce qu'il a été élu. J'ai été élu, donc je fais ce que je veux. C'est aussi une faiblesse, car dans des situations difficiles, il ne disposera pas des forces de rappel qui lui dicteront une certaine prudence. Et ça, c'est un atout pour les forces démocratiques. Dans un discours qu'il a fait à Nantes et qu'il a redit à Lille, il a opposé la notion de contrat à la notion de statut, pensant qu'il fallait que ça s'équilibre, dans quelles conditions il ne l'a pas dit, mais d'autres se chargeront de le faire. Il a dit qu'il fallait opposer la notion de métier à celle de fonction. Or, le métier, qui est un concept noble, appliqué à la fonction publique, fait éclater la notion de fonction. Et il a dit également qu'il fallait privilégier la performance individuelle sur l'efficacité sociale, ce qui est contraire à la nature même du service de l'intérêt général. Voilà dans quelles conditions nous nous trouvons. Voilà quels sont les enjeux qui sont en face de nous. Personnellement, je crois qu'une course de vitesse s'est engagée entre la volonté qui est celle du président actuel et du pouvoir qu'il administre de mettre à bas une pièce essentielle de la construction républicaine, et puis ce discrédit dont il est frappé dans l'opinion et qui ouvre la voie aux forces démocratiques pour une contre-offensive que j'espère la plus rapide et la plus décisive que possible. Je vous remercie.
Merci.